Second atout, car les informations qu'ils contiennent ont une signification et une portée qui va loin. Et la troisième caractéristique de ces deux versets, c'est qu'ils sont puissants. Ces deux phrases contiennent un message qui rebooste, qui remet en selle, qui permet de se remettre en route si on s'est arrêté, ou qui donne envie d'aller de l'avant, d'aller plus loin. Et alors ces deux versets, ils ont quelque chose en commun de très particulier, ils ont la même référence. Chapitre 1, verset 6. Chapitre 1, verset 6. Je vais vous le répéter plusieurs fois pour que ça rentre, parce que mon objectif, c'est que vous puissiez vous en souvenir à la fin du culte, et peut-être même à midi, au repas, ou ce soir, ou peut-être même demain matin. Là, je suis très ambitieux. Vous puissiez vous rappeler 1-6. Alors, je vais insister sur 1-6. Et peut-être vous direz-vous, ainsi soit-il. Alors, je m'aperçois que je ne vous ai pas dit dans quel livre de la Bible on allait lire ces deux versets. Donc, vous avez tout de suite compris qu'il allait y avoir deux livres différents pour qu'on puisse avoir deux fois la référence. 1-6, chapitre 1, verset 6. Et on va lire dans deux lettres de Paul, tout d'abord dans la lettre aux Colossiens et ensuite dans la lettre aux Philippiens. Donc vous avez compris, on va lire le chapitre 1, le verset 6. Et donc nous passons à la slide numéro 2 et nous allons lire ensemble Colossiens, chapitre 1, verset... Voilà, je propose qu'on le lise ensemble. « Cette bonne nouvelle est parvenue chez vous, tout comme elle porte du fruit et grandit dans le monde entier. Il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité. » Jean, on va le relire. « Cette bonne nouvelle est parvenue chez vous, tout comme elle porte du fruit et croît dans le monde entier. » Il en est de même chez vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité. Donc c'est vraiment un verset, moi, qui me fait du bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors parlons rapidement du contexte. Qui écrit ? Bon, je l'ai dit, hein, c'est Paul. Quand on lit le début de la lettre, on voit qu'il était avec Timothée aussi. Ensemble, ils écrivent. Il n'y a pas besoin de les présenter ce matin, en tout cas je ne vais pas avoir le temps. Ils écrivent donc aux frères qui sont et aux sœurs qui sont à Colosse. Alors Colosse, c'était une ville, donc ça va être la page géographie. C'était une ville en Turquie, aujourd'hui ça s'appelle la Turquie, à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça. Et dans cette région de la Turquie, donc c'est à peu près à 200 km au milieu des terres, vers l'est par rapport à Istanbul, donc de l'autre côté. Et donc dans cette région de la Turquie, il y avait trois villes importantes qui s'appelaient Hiérapolis, Laodicée et Colosse. Et c'est des villes dont on a entendu parler un petit peu. Et donc il y avait dans chacune de ces villes trois communautés chrétiennes importantes. Tellement importantes que Paul, qui n'était jamais allé là-bas, leur écrit. C'était un des compagnons de Paul qui s'appelait Épaphras, qui était originaire d'une de ces trois villes, qui avait reçu l'évangile, qui était retourné dans son pays, qui avait annoncé l'évangile, il y avait des communautés chrétiennes qui s'étaient créées. Et puis, donc, Paul encourage ces gens. Alors aujourd'hui, de ces trois villes, Colosse, Hiérapolis et Laodicée, il ne reste que des ruines. Il y a une petite ville qui s'appelle Denizli à côté, c'est une ville qui existe maintenant. Peut-être qu'il y a une église chrétienne encore dans cette ville, mais elle est peut-être certainement en train de se cacher pour survivre. Alors, à la fin de la lettre aux Colossiens, dans le chapitre 4, on voit que Paul il dit aux gens à qui il écrit, « Une fois que vous aurez lu ma lettre, passez-la aussi aux deux villes voisines, à Hiérapolis et à Laodicée. » Et Paul leur écrit pour les encourager et pour éviter qu'ils dévient. Il écrit pour rétablir certaines choses. Mais ce n'est pas ça dont je vais vous parler ce matin. Revenons au verset 6 du chapitre 1. « Cette bonne nouvelle est parvenue chez vous, comme elle porte du fruit et grandit dans le monde entier. Il en est de même chez vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité. La bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est la vie transformée par l'amour de Dieu. C'est la promesse et l'espérance de la vie éternelle passée avec Dieu. C'est la communion avec Dieu, ici-bas sur cette terre et après notre mort. Et ça, Paul dit aux Colossiens, c'est ça qui vous propulse en avant. Dans les deux versets d'avant, les versets 4 et 5, il écrit « Nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les croyants à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, dont vous avez entendu parler précédemment par la parole de la vérité, la bonne nouvelle. » Donc Paul dit « La bonne nouvelle, elle est arrivée chez vous, à Colosse, mais il y a aussi une autre bonne nouvelle. » C'est que la bonne nouvelle, elle n'est pas arrivée que à Colosse. Elle se répand dans le monde entier. Alors moi, j'ai deux questions. Je n'ai pas Paul sous la main pour lui poser. Mais pourquoi Paul affirme cela ? Première question. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça ? Et Paul, il écrit, ou il écrivait, il y a 19 siècles, 1950 ans, ou je ne sais pas très bien exactement combien. Donc c'était peut-être vrai à son époque. Mais de nos jours, est-ce que c'est encore vrai ? Sur quoi se base Paul pour affirmer que la bonne nouvelle progresse dans le monde ? Ben, il se base sur ce que dit la Bible. Je vais juste prendre quelques exemples. Quand Jésus dit adieu à ses disciples, il leur dit « Allez par toutes les nations ». Ça fait partie de l'ordre de Jésus. Et Paul, il s'est mis en marche pour le faire. Et depuis des siècles, ça continue. Luc, il écrit dans Actes 1,8 « Vous serez mes témoins à Jérusalem, Juda, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors dans notre église, vous savez, on soutient au travers des enfants de l'école du dimanche, de l'atelier du maître, on soutient des missionnaires en Sibérie. Moi, jamais j'aurais imaginé qu'on puisse aller annoncer l'évangile en Sibérie, tellement c'est loin et où il fait froid là-bas. Jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est le projet de Dieu que l'évangile se réponde dans le monde entier. Jésus, il a donné plein d'images, plein de paraboles. Vous rappelez la petite graine qui devient un arbre immense. Une autre image, le levain, la levure de boulanger, on en met dans la pâte et ça gonfle silencieusement, tranquillement, de jour comme de nuit. L'évangile, c'est contagieux. Je crois que c'est un mot interdit en ce moment. Jésus dit « Je suis venu allumer un feu sur la terre. » Et ce feu, il brûle encore. Dans l'évangile, il y a une force, il y a une énergie, il y a une puissance. La bonne nouvelle, elle a la force de grandir et d'envahir le monde. Alors Paul, lui, pouvait l'affirmer. Il a passé sa vie à faire en sorte que l'évangile soit annoncé et qu'il y ait des personnes qui le reçoivent. Et le résultat, c'est que il y avait des églises dans toutes les villes de tous les pays de son époque où il était passé. Jérusalem, Antioche, Éphèse, Colosse, Philippe, Corinthe, Rome. Dans chaque ville, de plus en plus loin, une église était créée. Ça, c'était vrai du temps de Paul. Mais de nos jours, qu'est-ce qui se passe ? Nos médias, ils n'en parlent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Au contraire, on entend de tout ce qui se passe dans tous les pays du monde, au Brésil, en Chine, en Afrique, c'est merveilleux. Mais chez nous, dans la vieille Europe, on a l'impression que ça diminue. Mais non, c'est faux. Ça progresse aussi, sauf qu'on n'en entend pas parler. Nos médias n'en parlent pas. Et nous, on n'a pas trop d'informations, peut-être. On n'ose pas trop en parler. Mais l'évangile progresse. En France, si on compare... Si on regarde ce qui s'est passé sur les 50 dernières années, entre 1970 et aujourd'hui, il y a un nombre d'églises qui a explosé. Il y a de plus en plus de chrétiens en France. Et ce n'est pas fini. Rendez-vous compte, l'évangile est annoncé dans les églises traditionnelles, avec des moyens excellents comme par exemple le Parcours Alpha ou d'autres outils. Et ça porte du fruit. L'évangile grandit aussi dans notre pays. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas ou qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Jésus dit, le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne sait pas tout. Nous devons être conscients que l'évangile progresse constamment, y compris dans notre pays. Pourquoi ? Parce que nous sommes appelés à y prendre part. La bonne nouvelle porte du fruit et elle grandit. Je crois qu'elle grandit dans deux directions. Elle grandit en nombre, c'est la croissance numérique, et elle grandit en qualité aussi, en maturité. C'est le terme porter du fruit. Le projet de Dieu est en marche et rien ne peut l'arrêter, parce que Dieu est aux commandes. Je ne vous apprends rien. Et comment ça marche le projet de Dieu pour que la bonne nouvelle se répande? Dieu a choisi le moyen le plus simple et le plus à notre portée. C'est écrit, vous avez entendu et vous avez connu la grâce de Dieu. S'ils l'ont entendu, c'est grâce à leurs oreilles. Et s'ils l'ont entendu, c'est parce que quelqu'un a bougé sa bouche pour leur dire. Notre Dieu a choisi le moyen le plus facile pour les humains de communiquer, c'est le bouche à oreille. Quelqu'un parle de l'évangile et les autres entendent. C'est ça le plan de Dieu, c'est tout simple. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont reçu l'évangile comme ça spontanément ? La génération spontanée des chrétiens. Tout d'un coup, tu marches dans la rue et paf, tu deviens chrétien. Ou alors tu es chez le dentiste, la roulette, et paf, tu deviens chrétien. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Qui est devenu chrétien dans cette salle ? Parce qu'un ami, quelqu'un de la famille, un collègue de travail lui a parlé de Dieu, de Jésus, de mettre sa foi en lui. Qui ? Je vous propose de lever la main, on va faire un petit sondage. Vous voyez ? Et donc Dieu attend de nous que ça continue. Puisqu'il a décidé que c'était nos bouches qui annonçaient le message, que ce n'était pas lui qui, comme ça, mais il a besoin de nous. Vous voyez, c'est simple. Dieu attend que ça continue, que nous parlions de lui autour de nous. Et la question, donc, c'est est-ce que chacun de nous, nous contribuons ? Alors, pour certains, c'est facile, pour d'autres, c'est plus difficile. Ça demande un effort, mais avec l'aide de Dieu, tu vas y arriver. Et si tu ne participes pas, est-ce que la bonne nouvelle va s'arrêter de progresser ? Non, certainement pas. Mais par contre, toi, tu vas rater des choses. Ça serait dommage. Parler de l'évangile à d'autres, ça fait partie de notre identité, de notre appel, de notre destinée. C'est à chacun de nous d'être des témoins de Jésus, des témoins du Christ autour de nous. Ce matin, par exemple, en venant au culte, déjà, nous témoignons de notre foi les uns aux autres et nous sommes aussi appelés à être des témoins en dehors de l'Église. Alors, je sais que déjà, beaucoup d'entre nous sont investis. Et peut-être c'est le moment de reprendre du service, de re-rentrer dans cet appel, dans cette destinée, dans cette raison d'être. Alors, que faut-il pour contribuer ? Ben c'est tout simple, il faut avoir une bouche et il faut avoir un petit peu de disponibilité. Oui Seigneur, mon Dieu, je veux consacrer un peu de mon temps et de ma vie pour parler de toi autour de moi, pour que d'autres entendent et puis qu'ils viennent à connaître. Vous savez, nos contemporains, ils en ont assez du matérialisme, du consumérisme, de la société de consommation. Ils sont en recherche de sens, de grandeur, de beauté. Bon, la crise du corona le montre, une fois de plus, la recherche du développement durable, le sens de l'écologie montre que notre humanité recherche quelque chose de plus. Nos sociétés sont malades et les gens recherchent du sens. Il s'agit d'une quête, d'une recherche qui passe par tous les domaines, mais qui est aussi spirituelle. Regardez la diversité des spiritualités qui ont éclos dans notre société. Ça montre bien que les gens ont soif d'une vie spirituelle. Et malheureusement, ils se dirigent vers ce qu'ils ont sous la main. Et nous, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à leur apporter ? Tout simplement, comme nous, nous avons entendu l'Évangile, nous pouvons leur transmettre C'est tout simple. Et notre message, il est simple. C'est que Dieu existe et qu'il est plein de grâce. Alors le mot grâce, ça va être un mot peut-être un peu trop technique pour nos collègues. Mais on peut dire il est plein de bonté, de bienveillance, il est plein d'amour. Et regardez les mots de Paul. Vous aussi, vous avez entendu, ça rentre dans l'oreille, et puis vous avez connu. C'est-à-dire que petit à petit, connaître, c'est expérimenter. Voilà, c'est tout simple. Alors on a parlé un petit peu de la croissance en nombre, maintenant on va parler de la maturité, porter du fruit. La bonne nouvelle porte du fruit dans le monde entier. Et donc nous allons changer de verset et passer au deuxième verset qui est dans le chapitre 1 et le verset 6 de l'épître aux Philippiens. Alors on va changer, toc, voilà. On a changé de transparent, de slide, et puis dans l'histoire de la géographie, on est passé de la Turquie, Colosse, à Philippe, la Grèce. Donc on a traversé la mer, et en fait on s'est rapproché de nous. Alors je vous propose qu'on lise ce verset. Je suis persuadé, donc c'est encore Paul qui parle, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors vous comprenez pourquoi ce verset me fait du bien. Moi je vais vous faire une confidence, parfois je suis à l'arrêt, je suis fatigué, je n'ai pas envie d'avancer. Parfois je suis déçu de moi-même et je ne suis même pas assuré de ma capacité à grandir en Christ. Mais ce verset me dit que Dieu ne va pas arrêter son travail en moi. Ce n'est pas moi qui agis, mais c'est Dieu qui agit en moi. Alors le mot « œuvre », ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours, à part pour parler d'un chef-d'œuvre, mais on pourrait dire que c'est le même mot que le mot « travail ». C'est le mot « travail ». Dieu travaille. Dieu fait un travail bon en nous. Donc là, ce verset, on ne parle plus de la croissance en nombre, mais de la croissance en maturité, en profondeur. On pourrait dire aussi en épaisseur. On parle de devenir davantage solide, d'avoir plus de matière, d'épaisseur, de stabilité. Comment devenir cette sorte de personne ? Et Paul parle ici d'une autre facette du projet de Dieu. Quand il dit « je suis persuadé », il exprime une forte conviction. Paul a la forte conviction que celui qui a commencé en vous ce travail va l'achever. Dieu a commencé quelque chose dans notre vie. Alors, je ne vais pas m'étendre, mais qu'est-ce que c'est le projet de Dieu pour chacun de nous ? Il y a d'autres versets qui disent que c'est de nous rendre semblables à Jésus, de nous restaurer, de nous transformer pour que nous soyons semblables à qui nous aurions dû être. Vous vous rappelez de cette image, peut-être vous avez vu, d'un chrétien qui avait mis un petit panneau en chantier sur lui, sur le dos, pour dire que le travail continue. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des chantiers récemment en ville, mais il y a des barricades tout autour, des échafaudages, ça fait du bruit, de la poussière. On déterre des vieux tuyaux dans le sol ou des vieilles antiquités. Bref, voilà, ça ne donne pas forcément envie, un chantier. Mais c'est cette conviction de l'apôtre Paul, cette conviction que Dieu a démarré dans ta vie, ce qu'il a démarré, il ne va pas l'arrêter. Et il va l'amener, il va le continuer pour l'achever. C'est une transformation qui est irrévocable. Et là encore, notre identité est changée. Et peut-être la chose qui nous transforme le plus, c'est de découvrir que nous sommes aimés tels que nous sommes, que nous avons de la valeur pour Dieu et pour les autres. Et cette valeur, elle ne vient pas de ce que nous faisons ou de ce que nous n'avons pas fait. Non, cette valeur, c'est parce que Dieu l'a déclaré et qu'il a commencé ce travail en nous. Et je crois que nous devons aussi sortir de notre conception très individualiste où on pense que Dieu ne travaille qu'en nous. Il s'agit non seulement d'un travail en nous, mais aussi d'un travail de Dieu au sein de notre collectif, de notre communauté. Il y a une globalité. Dieu nous a unis ensemble et il nous travaille ensemble. Dieu travaille dans la vie des croyants et dans l'Église. Il a un projet global, à la fois pour l'assemblée des croyants et pour chaque croyant. Alors nous, on a beaucoup de mal à concilier les objectifs personnels avec les objectifs collectifs, et là encore, la crise du corona le montre bien. Mais Dieu, lui, il est capable de gérer les deux objectifs en même temps. Donc l'amour que Dieu a pour nous ne vient pas non plus de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas. Et ça, c'est une sorte de révolution culturelle qui a des effets dans notre vie. Nous avons tous vécu et encore besoin de transformation intérieure. Je pense que chacun de nous, on est assez lucide sur notre sort. On a tous un problème, on a le même. Le problème de l'humanité, c'est le problème du mal et de la fascination qu'il exerce sur nous. Qu'on soit enfant, vieillard, le mal a une force énorme. Et puis, bien sûr, il a des conséquences extrêmement néfastes. Alors, la Bible, elle utilise différents termes pour parler de ça, du mal, de l'injustice, l'iniquité, le péché, etc. Alors, je vais prendre un exemple. Dans le domaine de la santé, une comparaison. Qu'est-ce que c'est que la maturité que Dieu veut faire grandir en nous ? Alors, je parle sous le contrôle des médecins dans cette salle, mais il paraît qu'on a tous des microbes dans notre corps. Mais ce n'est pas parce qu'on a des microbes dans notre corps qu'on est malade. C'est que quand les microbes se développent en grand nombre. Et c'est quoi qui fait la différence ? C'est notre système immunitaire. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche, mais si notre système immunitaire est efficace, les virus en nous ne peuvent pas développer la maladie. Et c'est pareil pour notre vie chrétienne. Bon, nous avons tous le mal en nous. Désolé de vous l'apprendre, mais je crois que ce n'est pas un scoop. Nous sommes tous tentés par quelque chose. Et ce qui fait la différence, c'est notre système immunitaire spirituel. Est-ce que j'ai suffisamment de maturité pour résister et pour éviter que ça envahisse ma vie ? Et là encore, Dieu nous vient en aide. Il veut développer notre système immunitaire spirituel. Alors là encore, la question, mais c'est comment on fait ? Vous savez bien que vous ne pouvez pas y arriver. Dieu nous aide. Alors dans le Nouveau Testament, il y a énormément de cas concrets pour plein de domaines différents dans lesquels le mal, l'injustice peuvent se révéler dans la vie des humains. Bon, on ne va pas les lire maintenant, vous les lirez chez vous. Prenez du temps pour lire et comprendre la Bible. Vous allez voir comment Dieu veut renforcer votre système immunitaire spirituel. Alors, par exemple, dans l'Épître aux Corinthiens, dont on parlait tout à l'heure, Paul utilise une image assez parlante. Il dit qu'il faut se dévêtir des mauvaises choses et revêtir les bonnes choses. Comme un vêtement qu'on enlève. Et ensuite, on s'habille avec un nouveau vêtement. Dieu veut nous habiller. Et il veut qu'on soit bien habillé. Comme un père qui veut que son enfant soit bien habillé. Alors le problème, c'est que des fois, le vêtement à retirer, il colle un peu trop à la peau. On n'arrive pas trop à décoller. Mais la croix de Jésus, elle peut faire ça. Alors là encore, pour faciliter le travail de Dieu en nous, de quoi avons-nous besoin ? De disponibilité, d'être prêt à contribuer. Dieu nous demande d'actionner notre volonté, car Dieu ne peut rien faire, ou plutôt, il ne veut rien faire sans notre volonté, sans notre accord. Voilà donc le projet de Dieu décrit d'une autre manière. Dieu nous a choisis pour devenir ses enfants, et il souhaite que ses enfants soient semblables à lui, à sa manière d'être, semblables à Jésus. C'est le projet que Dieu a pour chacun de nous, et c'est le projet qui est en marche. Et pourquoi il a ce projet ? Parce qu'il nous aime, et nous avons de la valeur à ses yeux. Notre valeur, notre prix, c'est le poids, on pourrait dire, de la mort de Jésus. Donc on voit que Dieu a des intentions très hautes, très élevées pour nous. Et ce verset, il nous dit, ça a commencé, et ça va continuer. Et ça va jamais s'arrêter et ça va aller jusqu'au bout. C'est Dieu qui est en contrôle. Là, c'est encore une bonne nouvelle. Parce que des fois, en tout cas moi, je vois, dans ma vie, je peux ralentir les choses, mais c'est Dieu qui est en marche. Des fois, ma foi est ferme, et des fois, elle est vacillante. Mais ça ne dépend pas de moi. Que tu sois en bonne santé, que tu sois malade, Dieu continue son travail dans ta vie. Je ne sais pas vous, moi, je n'ai pas une vie très linéaire. Je passe par des hauts, des bas, des crises, des moments plus calmes. De mon point de vue, j'ai l'impression que des fois, j'avance et des fois, je recule. Mais Dieu, lui, il continue toujours d'avancer. Je ne sais pas comment il se sert de tout ça, mais j'ai foi, je suis convaincu, comme dit Paul, que Dieu continue à travailler dans ma vie pour me rendre semblable à Jésus. Alors, je ne sais pas dans quelle période de ta vie tu es. Peut-être tu traverses une situation inconfortable, une période difficile, une épreuve, un échec. Mais Dieu est au travail dans ta vie. Que tu te sentes proche de Dieu ou que tu te sentes un peu loin, Dieu, en ce moment, est au travail dans ta vie. Il ne te laisse pas tomber. L'action de Dieu ne s'arrêtera que lorsque le travail sera terminé. Dieu va parachever son œuvre en toi. Dieu va aller jusqu'au bout, et toi aussi. Dieu nous demande de contribuer. Alors je crois qu'il y a deux étapes pour contribuer. Tout d'abord, c'est de regarder notre vie avec un petit peu de lucidité. Et puis aussi de compassion. Ça ne sert à rien d'être méchant ou trop sévère envers soi-même. La Bible nous invite à avoir de la grâce envers nous-mêmes et envers les autres. Donc la première étape, c'est de vérifier si notre vie est conforme à ce qui est décrit dans la Bible. Alors par exemple, vous prenez une feuille de papier, vous lisez une épître de Paul, par exemple Colossiens, les chapitres 3 et 4, et vous notez tout ce qui correspond à votre vie et tout ce qui ne correspond pas. Ça fait un premier bilan, c'est simple à faire, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et puis il y a une deuxième étape, c'est d'oser en parler avec Dieu. Tu vois, Seigneur, dans ce domaine, j'y arrive pas vraiment, je ne suis pas vraiment à la hauteur. Viens m'aider. Viens à mon aide, s'il te plaît. Alors, Dieu, il est déjà au courant. Hein. Il le sait déjà. L'autre chose aussi, c'est que il a déjà pardonné vos péchés. Vos péchés d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Ils ont été déjà pardonnés par la mort et la résurrection de Jésus. Et donc, Dieu connaît déjà tous nos péchés avant qu'on les fasse. Alors ça ne lui fait pas peur qu'on lui en parle. Je crois qu'il en a vu d'autres. Et puis Dieu nous donne aussi des personnes qui vont nous aider. Et ça, c'est un des rôles de l'Église et de la famille. Ce n'est pas les seuls, bien entendu. Mais Dieu nous place dans une communauté pour que des personnes puissent prendre soin de nous. Des pères et des mères spirituels, des frères et des sœurs spirituels qui vont nous soutenir, nous encourager, nous faire réagir. Nous interpeller. Dieu continue son travail avec ce projet de faire grandir dans les communautés une expression concrète de son amour. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a lu le verset de Colossiens, Paul disait « J'ai entendu parler de votre foi et de votre amour pour tous les croyants, les uns pour les autres. » Dieu nous donne des frères et des sœurs plus matures qui sont là pour nous aider, pour nous écouter, pour prier avec nous, pour nous soutenir. Souvent, le fait de parler de ce qui est secret en nous, dans nos vies, c'est déjà une première libération. Parce que souvent, on se rend compte que les autres disent bah, « Tu sais, moi, je traverse la même chose. »« Ah bon? Je ne suis pas le seul ?»« Ben non. » Et puis l'apôtre Jacques, par exemple, il en parle dans sa lettre. Il nous dit « Ose aller en parler à quelqu'un. » Bien sûr, on ne va pas crier ça sur tous les toits, etc. Non, mais d'aller parler à quelqu'un en qui tu as confiance, qui saura t'écouter, qui saura garder la confidentialité. Dans l'Église, il y a plein de gens qui sont capables de t'écouter, de t'accompagner. Alors voilà, je vais m'arrêter là ce matin. On a parlé de pas mal de choses. Je vais redire en deux phrases les choses à se rappeler. 1, 6. Deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que Dieu agit dans le monde entier, et en particulier à Nîmes, ou dans ton quartier, dans ton village. Et il continue à faire grandir l'Évangile. L'Évangile se répand. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que Dieu continue à travailler dans ta vie pour te faire progresser et grandir en maturité. Et dans les deux cas, il ne va pas s'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Et dans les deux cas, tu es invité à y contribuer par ta disponibilité. Dieu t'invite à contribuer parce qu'il t'aime tel que tu es. Alors peut-être ce matin, il y a des personnes qui n'ont jamais donné l'autorisation à Dieu de faire des choses dans leur vie. Ou alors il y a très longtemps. Il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais fait entrer l'Évangile dans leur vie ce matin. Dites tout simplement à Dieu, « Dieu, je remets ma vie entre tes mains. Je te donne l'autorisation de venir dans ma vie et de commencer ton travail en moi. » Voilà, j'espère que vous vous rappellerez de ces deux versets, chapitre 1, verset 6, dans l'épître aux Philippiens et aux Colossiens.